Le barde. Le lendemain de son couronnement, un jeune roi quitta son palais pour se promener sans escorte dans une forêt voisine. On était à cette douce et fugitive époque de l'année où l'été, atteignant sa plénitude, s'apprête à léguer à l'automne les moissons et les fruits qu'ont mûri ses ardeurs. La vie dans sa force, sa joie et sa majesté éclataient de toutes parts. C'est à peine si, à la cime des arbres, quelques feuilles jaunies tachaient de leur rouille le manteau vert de la nature. Le roi marcha longtemps pour calmer l'agitation que les cérémonies de la veille avaient produite en lui. Peu à peu, dans le silence rendu plus solennel par les chants étouffés des oiseaux sous l'orée et par les mille bruits que fait la nature en ses mystérieux travaux, une profonde paix envahit le jeune homme. Il se vit au sein d'une grande famille où toute chose le saluait en frère, république de laquelle tous les êtres vivants sont citoyens à titre égal. Il s'assit au pied d'un chêne. Il régnait en cet endroit un demi-jour discret, sur lequel tranchaient quelques points de vive lumière. On eût dit que du feuillage noir, il pleuvait des gouttes de soleil. Et le roi s'endormit. Soudain, un chant étrange, fantastique, surnaturel, qui semblait à la fois descendre du ciel et monter de la terre, parvint jusqu'à lui. Était-ce une seule voix ou une multitude? Dans cette admirable mélodie, si douce qu'elle eût bercé le sommeil d'un petit enfant, tout avait son écho. On y retrouvait le chant nocturne du rossignol et la plainte éternelle des vagues, le mugissement des tempêtes et le frais gazouillis des fontaines. Un bruit d'insectes qui volent et d'avalanches qui roulent, toutes les rumeurs de la plaine et de la montagne, de la mer et des bois, mêlées à des notes inconnues, lointaines, éthérées, voix d'anges se confondant avec les voix terrestres, musique mélodieuse que fait à travers l'infini la marche des étoiles. Longtemps le prince écouta. Il avait quitté son palais au matin, et déjà le crépuscule étendait au loin ses ombres transparentes, qu'il écoutait encore la voix qui ne se lassait point, avec des intonations nouvelles où le même motif se retrouvait en d'innombrables variations. Mais quand la nuit fut venue, un frisson éveilla le roi, et le chant s'arrêta. Il se leva, regarda autour de lui. « Ô barde ! Cria-t-il, ne t'arrête point, chante encore, chante ! Et je te donnerai pour récompense tout l'or que tu voudras. Viens jusque dans mon palais et chante sur la route, car même pour un instant, je ne puis me passer de t'entendre. » Mais la forêt resta silencieuse. Seul le vent de la nuit répondit au jeune homme en jetant à ses pieds quelques feuilles sèches. « Viens, cria-t-il avec impatience, montre-toi, ou je ferai ce soir même fouiller la forêt par mes gardes qui t'amèneront pieds et poings liés devant moi. » Mais rien ne répondit à sa colère que le craquement de l'écorce et la chute des branches mortes. « Ô poète, qui que tu sois, aie pitié de moi, je ne vivrai plus sans ton harmonie, supplia le prince à genoux. Viens, ou si tu veux rester ici, chante encore, et j'y resterai avec toi, car t'entendre, c'est plus que vivre et c'est plus que régner. » Mais à ce dernier appel, rien ne répondit que le cri funèbre de l'orfraie. Et le jeune roi, désespéré, rentra seul au palais, désormais vide pour lui. Ce fut en vain que les courtisans essayèrent, pendant les jours qui suivirent, de dissiper la mélancolie de leur maître. Ils se demandaient l'un à l'autre quel mystère s'était révélé à lui, ou quel drame s'était passé pendant sa longue et solitaire promenade. Ils multiplièrent autour de lui les distractions, ils voulurent l'occuper des affaires du royaume, vains efforts. Le roi était de jour en jour plus sombre et plus abattu. Sa vigueur s'épuisait comme celle d'un jeune chêne mordu par un ver à ses racines. Déjà la mort semblait l'avoir marqué au front. Tous les jours, à des heures différentes, il retournait dans la forêt. Mais l'automne était venu. Chaque jour, les sentiers devenaient moins visibles sous l'entassement des feuilles mortes. La joyeuse république qu'il avait reçue au nombre de ses citoyens devenait un cimetière où la mort s'étalait crûment, sans le mystère et la poésie dont, en été, la vie s'enveloppait. Et le barde n'était point revenu. Avec l'hiver, le roi cessa ses promenades quotidiennes, pour lesquelles, d'ailleurs, les forces commençaient à lui manquer. et pendant de longues heures il restait immobile, comme obsédé par un souvenir ou par un rêve. C'était quelques fragments de l'inoubliable mélodie qui le hantait. Un jour, ses serviteurs s'approchèrent de lui. « Sire, lui dirent-ils, votre vie est en danger. Vous portez un secret qui vous tue, et si vous ne parvenez pas à l'oublier ou à satisfaire la passion qui vous ronge et dont nous ne connaissons pas l'objet, ce sera fait de vous en peu de temps. » « Mourir, répondit le roi avec un triste sourire. « Ah, cela me serait doux si j'étais sûr d'entendre dans la tombe, mais non, elle est plus silencieuse encore que la forêt. »« Eh bien, reprit-il en se redressant, je ne mourrai point sans avoir fait un effort pour retrouver la vie. Écoutez et obéissez. Qu'une fête extraordinaire soit préparée, à laquelle seront invités tous les poètes, musiciens et chanteurs de mon royaume et de tous les royaumes. » Qu'ils y viennent avec leurs meilleurs instruments et leurs plus belles harmonies, et qu'ils sachent qu'un prix considérable, une fortune royale sera la récompense de celui dont les accents me guériront. Allez !» Les ministres s'inclinèrent et procédèrent rapidement à l'exécution de ces ordres. Lorsqu'arriva le grand jour où devait avoir lieu ce concours universel, la capitale et les faubourgs regorgés d'artistes accourus de tous les bouts de la terre. On entendait à tous les carrefours que le bruit des voix qui cessaient et d'instruments qui s'accordent, que d'aubades et de sérénades aux oreilles des bons bourgeois. Des juges compétents, choisis par le prince, ne tardèrent pas à démêler les vrais talents au sein de cette discordante cohue. Un premier choix donna une centaine de sujets, tous fort habiles, tous dignes de charmer le roi, s'il était capable de le guérir. Mais ce nombre était trop élevé encore. Et par un examen final, 6 concurrents obtinrent de se présenter devant la mélancolique majesté. Couché sur son lit de parade, le jeune prince apprit sans grande joie que parmi les milliers de bardes que son appel avait attirés, 6 avaient été choisis par les juges du concours comme capables de lui faire oublier, par leurs supérieures harmonies, le chant qu'il avait entendu dans la forêt. « L'oublier ? » répondit-il au serviteur qui lui apporta cette nouvelle. Ce n'est pas cela que je veux, c'est l'entendre encore. Je mourrai si parmi les 6 ne se trouve celui qui chantait, invisible dans mon trop court sommeil. On fit donc entrer les musiciens. Le premier qui se présenta tenait entre ses mains une lyre agreste, tout enguirlandée de fleurs des champs, et dont les cordes étaient faites des frêles fibres du roseau. Il chanta la nature, les saisons et les plaisirs rustiques, et le roi tressaillit, car dans ce chant suave et frais, il retrouvait par échappée le motif de l'hymne mystérieuse. Le barde s'exaltait par degrés. Bientôt, en véritable artiste, il oublia le roi, l'imposante assemblée, il s'oublia lui-même, et les auditeurs, ravis, se disaient que jamais plus belle harmonie n'avait pu se faire entendre. Mais l'on vit tout à coup les fleurs de la lyre pencher la tête et se flétrir, et sous les doigts du chanteur les cordes se brisèrent tout à la fois. Et tandis que l'artiste, honteux, se retirait en silence, le roi retombait sur sa couche avec un long soupir. La lyre du second barde était faite d'ivoire, et les cordes étaient des fils longs et soyeux, de fins cheveux d'enfant ou de femme. Il chanta l'amour, la joie suprême des affections partagées, les pures délices du foyer. Le roi fut ému. 1000 images gracieuses flottaient devant lui, et dans ce chant, comme dans le premier, il retrouvait des réminiscences de l'hymne inoubliable. Mais soudain, les fils se rompirent, et le chant expira sur les lèvres du barde, dont la lyre, échappant de ses mains, se brisa sur les dalles. « Hélas !» murmura le roi, « ce n'est pas encore cela. » L'aspect du troisième barde, que l'on introduisit aussitôt, contrastait avec celui de ses deux compagnons. Grave et solennel, il portait une lyre d'ébène, constellée d'étoiles de diamants qui brillaient d'un vif éclat. Les cordes, traversées par un fluide électrique, semblaient être de flammes. Il chanta les mystères de la nature, les lois éternelles découvertes par l'esprit humain, les merveilles des cieux, les secrets de l'océan, tout ce que pèse, compte et dissèque la science. Son chant s'élevait majestueux dans un profond silence. Une auguste sérénité s'en dégageait. Mais le roi, tout pensif, cherchait dans ses larges accords une note, la note dominante de l'hymne qu'il avait entendu dans la forêt. Cette note ne s'y trouvait pas. Et bientôt, les cordes phosphorescentes s'éteignirent lentement, les diamants brillèrent d'un feu sombre, puis s'éteignirent à leur tour, et le chanteur emporta tristement sa lyre noire et muette. Le roi n'eut pas la force de faire un signe, mais le quatrième barde fut appelé. Celui-ci s'avança d'un pas ferme et délibéré avec une lyre d'acier dont les cordes étaient d'airain. Il chanta la gloire des ancêtres, les héros des siècles passés, les conquêtes par lesquelles fut fondée la patrie. On entendait dans ses accords puissants sonner les fanfares et les sabots des chevaux retentir sur le pavé des villes incendiées. Une flamme passa dans les yeux du roi. Il chercha de l'œil son épée, et déjà les soldats qui l'entouraient s'apprêtaient à le suivre dans quelque campagne glorieuse. Cependant, le barde ne jouait plus qu'avec peine de son dur instrument. L'effort et la douleur se trahissaient sur son visage, et ses doigts ensanglantés par les cordes d'acier laissèrent enfin tomber la lyre, qui rendit un son sinistre en frappant le sol. La flamme s'éteignit dans les yeux du roi. L'espoir des courtisans s'évanouissait. Cependant, ils firent approcher le cinquième barde. Celui-ci se présenta en dansant et en agitant des grelots attachés à ses vêtements. Il tenait une lyre étrange, faite de bois doré avec des cordes d'or, d'argent et de cuivre. Il chanta le plaisir, la coupe énivrante, les vulgaires jouissances des sens. Mais malgré la beauté de sa voix et la gaieté de ses mélodies, l'accompagnement en était si bizarre, les sons qu'il tirait de sa lyre si discordants, que le roi fit bientôt un geste de fatigue et de dégoût. « Qui donc, demanda-t-il, s'est imaginé qu'un pitre pût me faire oublier le barde divin ?» Découragés, les serviteurs du roi n'osaient faire approcher le dernier concurrent. Mais celui-ci s'avança tout seul. Ses vêtements étaient sombres et sa lyre était enveloppée d'un voile noir. Il chanta la douleur, le désespoir et la mort. Chant sublime dans lequel vibrait la plainte de tous les siècles, où lentement défilèrent toutes les mornes agonies que le soleil et les étoiles contemplent jour et nuit sur notre terre désolée. Le roi écouta, farouche, le sourcil froncé. Cette mélodie lui plaisait. Non, certes, qu'elle lui rappela celle qu'il avait entendue dans la forêt, mais justement parce qu'elle en était l'opposé. Il éprouvait une sorte de volupté à boire les eaux amères de la désillusion. L'hymne funèbre se prolongea, la même monotone mélopée se répéta à l'infini, jusqu'à ce qu'enfin la voix devint traînante, plus plaintive encore, et s'éteignit dans un sanglot. Le roi retomba sur ses oreillers, il ne lui restait plus qu'à mourir. Un serviteur entra. « Il y a, dans la rue, dit-il, un homme qui insiste pour être introduit devant sa majesté. » Il dit être un barde venu de loin et se prétend capable de guérir le roi. L'un des ministres alla voir cet homme, mais il revint presque aussitôt. « C'est un mendiant, dit-il, ou un fou. Il est couvert de poussière et ne peut être admis en la présence de notre souverain. » Mais le prince avait ouvert les yeux. « Que m'importe à cette heure les vaines apparences? Faites entrer cet étranger. » On appela donc le nouveau venu. Les six concurrents, pleins de curiosité et d'envie, demandèrent à rester pour l'entendre. Mais l'inconnu refusa d'entrer si on ne le laissait seul avec l'auguste malade. Celui-ci fit sortir tout le monde, et sur le seuil de la chambre, les courtisans et les musiciens congédiés se croisèrent avec l'étranger. Ils lui jetèrent un regard dédaigneux. « Le roi a perdu la tête, » dirent-ils tout bas à l'aspect du nouveau chanteur. Il était en effet pauvrement vêtu, et ses pieds nus et meurtris montraient qu'il venait de loin. Il portait un objet mystérieux, un instrument fort lourd, formé de deux pièces de bois épineux, clouées l'une sur l'autre à angle droit. Quand la porte fut refermée, l'inconnu laissa reposer son étrange lyre sur le sol et chanta. Dès les premières notes, le roi fut saisi. C'était bien là les accents ineffables entendus dans la forêt. C'était la même harmonie où se retrouvaient avec la même ampleur les échos de toutes choses et cette note surhumaine qui manquait aux autres chanteurs. Mais le cri de joie qu'il allait pousser expira sur ses lèvres, car, ô merveille, le barde se surpassait. Ce n'était plus seulement le chant de l'oiseau et le bruit des vagues, le grondement des tempêtes et le murmure des ruisseaux, le cœur lointain des cieux et des étoiles, toutes les voix de la mystérieuse création. Ce n'était plus seulement la note sacrée qui semblait descendre du trône de Dieu pour se mêler au concert de la nature. C'était au-dessus de tout cela une note nouvelle, inouïe, profonde et vibrante, et qui semblait sortir du cœur même de l'Éternel. Le barde chantait Dieu visitant la terre et ses fiançailles avec l'humanité. Il chantait le triomphe de la lumière et de l'amour. Et tandis que ses doigts frémissaient sur les cordes invisibles, une sueur sanglante perlait de son front, sa vie s'écoulait avec son chant, les cordes de sa lyre, c'étaient les fibres de son cœur. Lorsqu'enfin il s'arrêta, le roi était à genoux, prosterné au pied du barde. « Oh, merci ! S'écria-t-il, merci d'être revenu. Ah, pourquoi m'as-tu laissé si longtemps ? Du moins maintenant, je ne te laisserai point aller. » Chantre béni, j'abandonnerai pour te suivre ma couronne et ma patrie, je serai pèlerin et voyageur comme toi. Mais dis, ne veux-tu pas rester ici? Tout ce que j'ai t'appartient. Dispose en maître de ce palais et de moi-même, que je puisse seulement entendre chaque jour ta divine harmonie. » Mais le barde répondit, « Je ne puis rester ici car d'autres lieux m'attendent. Moi aussi je suis roi, et je dois retourner dans mon royaume. » Tu ne peux me suivre pour le moment, il faut que je te laisse seul. Ah, pourquoi donc, gémit le jeune prince, pourquoi t'ai-je rencontré? J'eusse vécu heureux si je ne t'avais entendu dans la forêt, et je serais mort si tu n'étais revenu aujourd'hui. Pourquoi m'empêches-tu à la fois de vivre et de mourir? Tu vivras, et tu seras heureux. Bien plus, tu donneras le bonheur. Je pars, mais je te laisse ma lyre. Dit le barde en montrant le bois rugueux qu'il avait apporté. « À condition que tu ailles comme moi, de ville en ville, pour faire entendre à tous l'hymne divin que je t'ai enseigné. »« Mais je ne saurais pas en jouer, je ne saurais pas chanter comme toi. »« Essaie, » dit le barde en souriant. Le jeune homme appuya ses mains fines et délicates sur le bois grossier. « Ô prodige ! Il en tira des sons tout pareils à ceux qu'en avait fait sortir le musicien, et sur ses lèvres naquirent comme d'elles-mêmes les notes du chant céleste. Il n'avait pas encore l'inimitable perfection du maître, mais en s'essayant à l'imiter, l'élève éprouva une joie presque égale à celle que lui avait procurée le barde divin. Celui-ci disparut. Quand les serviteurs du roi entrèrent, ils le trouvèrent seul, le visage radieux, serrant sur sa poitrine, sans craindre les sanglantes morsures des épines, l'instrument laissé par l'étranger. Une lyre en forme de croix.